Thème et Anathème, une émission proposée par Yolande Gounel.
Bonjour à tous. Quels sont les rapports entre le droit et la pratique culturelle dans notre pays ? La laïcité implique-t-elle que toute pratique religieuse doit se faire dans l'intimité ? Pour en parler, nous avons ici Jean-Daniel Roch, qui est le spécialiste incontesté de la question et la terreur des hauts fonctionnaires du ministère de l'Intérieur et des Cultes, m'a-t-on dit. Bonjour Jean-Daniel.
Bonjour Yolande.
Vous êtes très connu dans le protestantisme puisque vous avez été trésorier de l'Église réformée de France, puis conseiller juridique. Maintenant, vous êtes également président de la Fondation des ministres protestants et vous vous occupez plus particulièrement donc de la question de droit que je viens d'évoquer, c'est-à-dire l'état de droit et les cultes en France. Et pourtant, vous êtes historien de formation, pas un juriste de formation. Alors, rapidement, est-ce que j'ai oublié des choses importantes ? Je sais que j'en ai oublié, mais sur votre CV que je viens de présenter rapidement.
Oh, important, je ne sais, mais en tout cas, mentionnez que j'ai eu aussi les mêmes fonctions, c'est-à-dire trésorier, puis conseiller juridique à la Fédération protestante.
D'accord.
Qui m'a permis d'élargir ma connaissance d'une part et mon champ d'action de l'autre.
D'accord. Et là, vous intervenez donc dans cette… Quand vous intervenez auprès du ministère de l'Intérieur et des Cultes, c'est en tant que fédération protestante.
Exactement.
Voilà,
c'est pour ça que ça valait la peine d'être précisé.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, tout d'abord, on va venir au vif du sujet. Est-ce que la religion est vraiment une affaire privée, comme on l'entend souvent dire par certaines personnes en France, en parlant de la laïcité ?
La religion est, dans un premier temps, une affaire privée. Chacun choisit d'adhérer ou non à une religion, en toute ou en partie d'ailleurs. Mais une religion, c'est un acte qui nous relie à Dieu, mais aussi qui nous relie aux autres. Dans une religion, se situe nécessairement, me semble-t-il, dans un cadre social. Et qui dit cadre social, dit groupe à organiser. Et depuis longtemps, les pouvoirs publics se sont toujours occupés, en France en particulier, mais dans la plupart des autres pays également, d'organiser comment pouvaient se manifester les gens qui adhèrent à telle ou telle religion.
Alors en France, est-ce que vous pouvez nous rappeler la genèse de l'organisation moderne ? On ne va pas remonter au roi de France, mais
voilà.
Dans la France contemporaine.
Sans remonter, effectivement, jusqu'au roi de France, c'est-à-dire on va commencer au début du XXe siècle, c'est en 1905 que le Parlement a élaboré, voté, et rapidement d'ailleurs, en moins d'un an, une loi importante qui est la loi du 9 décembre 1905 et qui est la loi qui s'intitule « De séparation de l'Église et de l'État ». L'Église, c'est curieux parce qu'il aurait fallu dire « des Églises et de l'État ». Et en plus, le terme officiel que consacre cette loi, c'est des cultes, puisque effectivement, on ne peut pas appliquer le terme d'église aux juifs, par exemple. Et il y a un certain nombre de confessions pour lesquelles le terme d'église ne convient pas, c'est dont le terme général, c'est celui de culte, qui recouvre toutes les organisations possibles.
Oui,
mais cette loi de 1900…
Pardon. Toutes les religions sont concernées par ce problème d'organisation face au pouvoir public.
Tout à fait. Et l'objectif du législateur en 1905, c'était de mettre au point un dispositif, l'association culturelle, imposée à tout le monde. C'était le point de départ, 1905. La difficulté est venue de ce fait qu'un culte, l'Église catholique, qui était quand même la plus importante en France à l'époque, a refusé de l'appliquer. Et c'est un détail intéressant de constater que devant le refus de l'Église catholique, l'État s'est empressé de modifier la loi. Il a pris une nouvelle loi du 2 janvier 1907, on est très proche, hein, 13 mois après, qui permet d'organiser le culte, bien sûr en cultuel, puisque c'était la création récente, mais aussi en association 1901, comme une association de base, voire même uniquement par simple réunion, c'est-à-dire sans organisation permanente, constante. Et c'est d'ailleurs ce dispositif qui a été appliqué à l'Église catholique de 1907 à 1924. Pendant 17 ans, c'est-à-dire jusqu'au jour où il y a eu un accord entre l'État français et le culte catholique, pendant 17 ans, on a vécu sous le régime de la liberté de réunion. Mais c'est important de rappeler cette étape parce que on a souvent entendu reprocher aux musulmans, pour entrer dans un des aspects du vif du sujet, d'être organisés en 1901. Ce qui est un reproche tout à fait infondé. Lorsqu'ils étaient organisés en 1901, lorsqu'ils le sont encore, ils ne font qu'appliquer la loi qui le permet tout à fait en France.
Pour ça, oui, alors pour nos auditeurs, je voudrais préciser que la loi 1901, parce que là on est entre historiens, on a tendance à croire que tout le monde connaît, mais ce n'est pas aussi évident que ça. La loi de 1901, c'est celle qui régit toutes les associations en France. Donc c'est la liberté de se réunir. La loi de 1905, elle est spécifique pour les cultes. Et par exemple, l'Église réformée, elle est, enfin, l'EPUDF maintenant, oui, est sous la loi de 1905. Par contre, puisqu'on a parlé de la Fédération protestante de France, qui est un groupement de religions, c'est sous la loi de 1901. Et vous dites donc que les musulmans sont actuellement en France sous la loi de 1901.
Enfin, c'est le choix qu'ils ont fait lorsqu'ils se sont implantés et développés en France. On y reviendra un peu plus tard, parce que c'est une des conséquences des modifications apporté à cette situation initiale, 1901-1905, par la loi de 2021. On y reviendra par la suite. Juste pour préciser, les 1901 en France, on estime qu'il y en a environ 1 400 000, et les 1905 en France, on estime qu'il y en a environ 5 000. Pour bien montrer la disproportion entre les deux. Et ça permet aussi de comprendre que alors que bien des Français sont membres d'une 1901 et en connaissent un peu le fonctionnement, rares sont les personnes qui connaissent le fonctionnement de 1905 parce que c'est tout simplement un objet qu'on rencontre beaucoup plus rarement.
Oui, alors là, vous avez parlé de 1905, donc de la loi qui est le point de départ des associations cultuelles. Et puis, vous venez d'évoquer donc 2021, oui, je l'ai là sous les yeux. 2021, mais entre-temps, il y a dû avoir d'autres lois, non? Puisque on fait des lois facilement en France. Il n'y a qu'à voir les lois sur l'immigration, il y en a toutes les, je dirais pas tous les ans, mais enfin, il y en a très souvent. Et sur les religions?
Alors, effectivement, il y a eu d'autres lois. La première étape supplémentaire a été lorsque, en 1918, l'Alsace et la Lorraine ont fait retour à la France. C'est posé alors la question: est-ce qu'on allait appliquer à l'Alsace toutes les lois qui avaient été votées par la Troisième République depuis que l'Alsace était devenue allemande, ou est-ce qu'on allait tenir compte du régime spécifique qui existe dans de nombreux domaines, pas que dans le domaine culturel, qui existe dans de nombreux domaines en Alsace? Et le choix qui a été fait tardivement, en 1924, ça n'a pas été quelque chose d'aisément réglé, a été de maintenir en Alsace toute une série de dispositions antérieure, mais modifiée pendant la période allemande. Et dans le cas d'espèce, c'est le concordat de 1802.
C'est pour ça que nous avons eu, à un protestant peut en cacher un autre, l'interview d'une professeure de religion à Strasbourg, Dominique Gounel, qui nous a parlé de son enseignement, ce qui est complètement étranger à la France de l'intérieur, comme on dit. C'est un peu spécifique là, le retour de l'Alsace, mais sur la pratique religieuse en France, il n'y a pas tellement de lois, si j'ai bien compris, qui définit la pratique ou qui définit les modalités de la pratique.
Non, le principe de base étant la séparation des églises et de l'État, la conséquence logique, c'est qu'il n'appartient pas à l'État de définir ce que fait l'Église. Ce qui, à la fois, est logique et à la fois est parfois surprenant. Parce que, puisqu'il n'appartient pas à l'État de définir ce que fait l'Église, on se demande pourquoi l'État charge ses préfets de vérifier ce que font les Églises. Parce qu'en fait, c'est ça, nous sommes dans une réelle hypocrisie. Et c'est un des points qui a été accentué par la loi de 2021, qui est une loi qui est venue modifier profondément les deux tiers de la loi de 1905, et qui a dit que dorénavant, il appartenait au préfet, représentant de l'État, de vérifier tous les 5 ans si chaque association cultuelle est bien conforme à ce que dit la loi. Ça, c'est une évolution toute récente et c'est un problème tout à fait nouveau. De 1905 à 1980, pour avoir des dates en rond, la question ne s'était jamais posée. Et c'est après le développement d'une part du culte musulman, mais aussi de toute une série de cultes qui ont parfois été à l'origine de problèmes considérables, je veux dire, des massacres, etc., pas en France, mais hors de France, que les élus se sont intéressés à cette question et se sont dit il faudrait avoir les moyens de vérifier ce qui se passe dans toutes ces associations.
Alors, si je comprends bien, c'est un bien et c'est un mal. Enfin, pour vous, comment
exactement,
vous voyez les choses ?
C'est un bien et c'est un mal. Pour vous donner un exemple concret, en 1905, les églises ne pouvaient pas recevoir des legs. Elles ne pouvaient pas recevoir des legs, tout simplement, la question avait été débattue au Parlement, parce que Aristide Briand, le ministre, avait fait remarquer que si elles recevaient des legs, ça entraînait une surveillance par le préfet. Et lui-même a dit, il n'est pas possible dans un régime de séparation que le préfet surveille. Donc c'est le discours qui a été tenu en 1905 et qui a été totalement inversé en 2021, puisque c'est devenu, il est nécessaire que le préfet surveille.
D'accord. Et auparavant, si j'ai bien compris, le problème principal, c'était les sectes. Il y avait eu l'impression que il y avait un problème de secte. C'est là qu'il a été créé un organisme, la Miviludes, c'est comme ça qu'on dit, qui surveille, entre guillemets, le phénomène sectaire. Est-ce que déjà, là, il y avait un problème au niveau des protestants ? Est-ce que vous aviez l'impression que l'État intervenait trop ou est-ce que vous trouviez que c'était bien fait ? Enfin, est-ce que c'était correct ? Quel était votre sentiment ?
L'idée, c'était que puisque l'État… D'abord, premièrement, le mot « secte » n'existe pas dans le vocabulaire juridique en France, ce qui est aussi le corollaire du principe de base, l'État ne définit pas ce qu'est le culte. S'il ne définit pas ce qu'est le culte, il ne peut pas définir ce qu'est une secte. Ça, c'est le premier principe. Et du coup, la Miviludes, elle est chargée de vérifier les dérives sectaires. Le problème est entier. Mais enfin, ça montre bien que la surveillance s'attache aux dérives plus qu'au contenu. Et c'est bien cette difficulté qui a longtemps soulevé des réserves la plupart des cultes en France. Parce qu'on dit, on passe très facilement de l'analyse de la dérive sectaire à l'analyse du contenu. Et du contenu, on arrivera tout à fait à démontrer, surtout lorsque cette surveillance est faite par des personnes qui connaissent mal le contenu général de l'association surveillée. C'est-à-dire un pasteur, une personne qui viendra écouter un pasteur qui prêche sur tel ou tel passage de l'Ancien Testament, qui appelle les Israélites à tuer tous les habitants de telle ville, etc., il pourra en conclure que ce pasteur tient des propos qui heurtent l'ordre public, et il aura raison. Mais parce que, un, il ne connaît pas l'ensemble, ni du moment, ni de l'époque, etc., etc. C'est tout le problème de l'interprétation de propos. Et nous avons toujours dit qu'on pouvait interpréter des faits plus facilement que des propos. Et dont nous reprochions à la Miviludes de s'intéresser plus aux propos et aux intentions qu'aux réalités. C'était là la difficulté du dire. Ceci étant dit, la Miviludes a eu des responsables variables, différents, et avec certains, on a pu travailler, et pas avec d'autres. Mais ça, c'est… Il en est ainsi.
Parce qu'en France, il y a quand même une méconnaissance du fait religieux assez prononcée. Et justement, on m'a dit que vous étiez la terreur des hauts fonctionnaires du ministère des Cultes parce qu'ils avaient l'impression de passer l'oral parce qu'ils ne connaissaient pas grand-chose, finalement. Voilà ce qui m'a été reporté et rapporté.
La difficulté, c'est que le droit des cultes est un droit très compliqué. Très compliqué parce qu'il y a quelques textes législatifs, quelques textes réglementaires et beaucoup de jurisprudence. C'est-à-dire qu'il faut rentrer dans le détail de l'interprétation par le Conseil d'État, mais parfois tout simplement par les tribunaux, pour bien connaître la question. Le ministère de l'Intérieur avait fait, en pleine liaison d'ailleurs avec les cultes, c'est un travail auquel j'avais participé, une édition en 2011 faisant la synthèse de tous ces éléments. Et ce travail qui a été publié par les journaux officiels n'a jamais été critiqué d'ailleurs, ce qui prouve qu'il a été bien reçu par tout le monde. La difficulté, c'est que ce travail n'a jamais été mis à jour depuis 2011, alors que les réglementations évoluent, ni depuis la loi du 24 août 2021, qui fait que nous n'avons plus en France, à l'heure actuelle, de documents clairs et complets faisant le point sur la situation en la matière. Et c'est pour ça qu'il est facile de reprendre telle ou telle personne qui intervient sur ces questions, parce qu'elle ne connaît pas, elle ne connaît pas le sujet. Alors que moi, j'ai acquis cette expérience pendant 40 ans. Au bout de 40 ans, on commence à avoir quelques idées.
Oui. Alors, les problèmes de pratiques religieuses en France, c'est quoi? Alors, c'est l'interruption volontaire de grossesse, les problèmes de conscience, c'est les problèmes de la viande cachère pour les musulmans, c'est les problèmes des cimetières. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est le plus difficile, selon vous?
Alors, sur les problèmes que vous venez d'évoquer, se sont introduites progressivement, parfois discrètement, parfois officiellement, toute une série de dérogations. Et c'est également ce qui rend compliqué l'analyse de la situation. C'est que ce sont rarement des textes qui disent « voilà ce qui est permis », mais des consignes, des circulaires, des incitations. Par exemple, sur les cimetières, depuis 1884, donc c'est un acquis, là aussi, de la Troisième République, en théorie, dans les cimetières, il ne doit y avoir aucun signe religieux, nouveau en tout cas. On laisse les anciens, on n'en met pas de nouveau. Et c'est une illustration de ce problème, c'est toutes les difficultés que rencontrent les Juifs et les protestants pour garder des cimetières privés, parce qu'ils ne voulaient pas être enterrés, ils ne voulaient pas ni ne pouvaient pas être enterrés dans des terres bénis par l'Église catholique, donc ils avaient des cimetières privés et ils continuaient à les utiliser, ce qui est contraire à la loi de 1884. Et on rencontre actuellement, encore de nos jours, chez les protestants et chez les juifs, certaines difficultés pour maintenir ces cimetières privés. Alors que les ministres de l'Intérieur n'ont pas hésité, par 3 circulaires publiés au journal officiel, à inciter les maires à créer des carrés musulmans. Alors, le problème, c'est pas qu'ils aient eu cette incitation. Être attentif et accueillant à tout le monde est une idée qui nous convient tout à fait. Mais le problème, c'est qu'à la fois, pour certains, on dit « oui, oui, il faut les comprendre et il faut faciliter le respect de leurs pratiques », et pour d'autres, on dit « il n'en est pas question ». C'est là qu'on trouve tout de suite le sentiment de deux poids, deux mesures devant une question qui est à peu près la même. C'est une constante en France et ça fait partie d'ailleurs des éléments que relèvent en souriant les étrangers qui analysent notre système, qui disent non seulement votre système conceptuellement est très compliqué, mais dans la pratique, voilà à quoi il vous conduit.
D'accord. Alors, on va en venir à cette loi de 2021, mais auparavant, nous allons faire une pause musicale et vous nous avez choisi donc « Jésus, ma joie » de Bach. Alors, nous écoutons ce morceau.
Oh.
On se retrouve donc avec Jean-Daniel Roch pour parler de la loi du 24 août 2021 qui s'intitule donc Contre le séparatisme. Alors, quel est le but de cette loi, le but avoué de cette loi et quel est le but, enfin, quels sont les buts plus cachés s'il y en a?
Ben, le but avoué de la loi l'a été très clairement. Il a été très clairement et par le président de la République lui-même, qui a mis en cause le séparatisme musulman, et par le ministre de l'Intérieur, qui a même écrit dans le texte qui présente la loi que dans les associations cultuelles se passent des choses tout à fait inadmissibles et contraires aux principes de la République. Et donc, pour une fois, l'objectif est clair, et pour une fois, on ne peut pas dire qu'on a été pris de court, hein. L'objectif a bien été mentionné. La loi est une loi qui compte une centaine d'articles, qui touche à tous les domaines, parce que toutes les associations, par exemple 1901, dont les plus nombreuses, qui veulent recevoir des subventions publiques, doivent dorénavant souscrire un contrat d'engagement républicain, ce qui a donné lieu à bien des discussions d'ailleurs.
Même des associations
Toute association
catastrophes
1901
banales.
qui veut recevoir une subvention publique doit, depuis la promulgation de cette loi, signer un contrat d'engagement républicain dans lequel on nous dit qu'on ne fait que reprendre les règles de la République. Mais nous disons, les règles de la République, nous y sommes tous soumis. On ne va pas
Oui.
signer qu'on est d'accord ou qu'on n'est pas d'accord, d'ailleurs, ce n'est pas ce qu'on nous demande, mais qu'on va appliquer les règles de la République. Donc, sur la question de principe, on ne voit pas pourquoi il faudrait signer qu'on obéit à la République alors qu'on est des citoyens obéissants. Et surtout, la notion d'ordre public est une notion très difficile à définir, aussi difficile à définir que le culte d'ailleurs. Très
Oui.
difficile. Et par exemple, certains préfets, puisque c'est eux qui sont chargés d'appliquer la loi, certains préfets se sont basés sur cette loi et sur cette obligation de respect de l'ordre public pour supprimer certaines subventions, par exemple, à des associations qui accueillent les migrants, en disant accueillir les
Oui.
migrants, c'est contraire à l'ordre public, etc., etc. Donc, cette loi touche énormément de choses. C'est cette loi aussi qui, pour dans un autre domaine, qui a diminué les possibilités d'enseignement privé dans la famille. Moi, j'ai toujours exercé dans l'enseignement public et je suis un grand défenseur de l'enseignement public, mais j'ai toujours aussi rencontré des cas tout à fait légitimes d'enseignement dans la famille. En particulier, par exemple, pour des élèves brillantissimes en musique ou brillantissimes en sport ou ayant des difficultés réelles de santé. Je veux dire, il faut à la fois être satisfait de notre enseignement public et savoir qu'il ne peut pas tout faire. Donc, permettre. Or, c'est devenu beaucoup, beaucoup plus compliqué de prendre en compte les spécificités de chacun. Ça
Est-ce
fait.
que vous avez l'impression qu'il y a une méfiance, bon, donc vis-à-vis de l'islam, c'est avoué, mais vis-à-vis des autres religions, comme le protestantisme, voire le catholicisme? Est-ce que le catholicisme est épargné par cette suspicion?
La suspicion était très clairement exprimée à l'égard du musulman, d'une part. Ça a été exprimé par écrit. Et ensuite, oralement, lors du débat parlementaire, à l'égard des évangéliques, que d'ailleurs
Oui.
les autorités ne savent même pas correctement appeler, parce qu'elles parlent souvent d'évangélistes ou d'évangéliques.
Oui.
Je veux dire, petite formation serait bienvenue pour elles aussi. Et lorsque nous avons fait remarquer que ça allait entraîner des conséquences néfastes pour nous aussi, eh bien, on nous a expliqué que c'était des dommages collatéraux, qu'on était aux oreilles, mais comme on était obligé de traiter tous les cultes de la même manière, il y en a qui étaient visés expressément, les musulmans, les évangéliques, et puis les autres, ben, c'était des dommages collatéraux. Et puis.
Et les évangéliques, alors qu'est-ce qu'on leur reprochait? Qu'est-ce que...
Alors, la difficulté, c'est que enfin, l'Église protestante unie, par exemple, est une église établie depuis longtemps en France, qui a toute
Oui.
une organisation qui peut conseiller aux associations cultuelles comment s'organiser, comment faire leur compte, etc. Alors que beaucoup d'évangéliques, ils n'ont aucune mauvaise intention, mais ils ont tout à apprendre, si j'ose dire. Moi, je suis allé
D'accord.
souvent rencontrer des églises évangéliques qui m'avaient fait appel et qui tenaient leur compte sur un cahier d'écolier, 3 ou 4 pages par an, c'est tout. Il est
Oui,
bien évident
d'accord.
que ce n'est pas facile, avec une telle méthode, de répondre à toutes les exigences qui sont maintenant demandées par les préfectures. On ne leur reprochait rien à mes yeux de vraiment précis, C'était beaucoup moins précis que contre les musulmans, soyons clairs, mais c'était des demandes qui excèdent leur capacité. Ou en tout cas, il faut un certain temps. À mes yeux, ils seront tout à fait capables d'y arriver, mais il faut un certain temps. Il faut être patient.
D'où le rôle de la Fédération protestante de France qui a dans son sein donc l'église établie historiquement qui est l'EPUDF, l'ancienne église réformée, et beaucoup d'églises évangéliques donc qui peuvent demander conseil.
Tout à fait.
Par rapport au... le catholicisme n'a pas été touché.
Alors, très curieusement, le catholicisme avait pris des précautions parce que aussi c'est une grande institution, et comme la loi a amené des modifications dans les statuts des cultuels protestants, mais aussi dans les statuts des cultuels catholiques, statuts qui avaient été approuvés par le Conseil d'État en son temps, la conférence des évêques avait pris la peine de faire vérifier par le Conseil d'État les modifications qu'elle apportait à ces statuts. Eh bien, nous avons tous été surpris, en dépit de cette précaution, il y a des préfets qui ont rejeté les statuts déposés par les cultes catholiques. C'est-à-dire que les dommages collatéraux sont allés en toucher vraiment tout le monde. Ce qui, à mes yeux...
Si je comprends bien, personne n'est content de cette loi.
Tout à fait. Il n'y a qu'un culte en France qui l'a beaucoup défendu au début, il faut le reconnaître, c'est le culte juif, et dont le grand rabbin a beaucoup défendu cette loi, mais ils en sont revenus, parce que ça, c'était sur la papier. Mais lorsqu'on est passé aux actes, c'est-à-dire à l'application de la loi, ben, tout le monde a reconnu que... Et c'était un travail considérable et sans rapport avec le séparatisme. On n'a jamais vu des personnes faisant des actes de terrorisme, par exemple, ou violant la loi, être responsables d'une communauté, de quelque confession que ce soit. C'est-à-dire, c'est vraiment se tromper totalement d'objectif et d'interlocuteur que de penser qu'en multipliant les contraintes administratives, comptables, sur une association, on évitera que certains de ses membres ne s'engagent dans des procédures condamnables.
Alors, concrètement, quelles sont les modifications qui gênent le plus donc les cultuels ?
Eh bien, là, je crois que c'est la plus gênante, c'est cette obligation de tenir une comptabilité aussi poussée qu'une entreprise, c'est-à-dire une comptabilité avec comptabilité tenue avec des pièces justificatives pour chacun, ça c'est ce qu'on est capable de faire, ça pose pas de problème, mais également une annexe, c'est pas aussi annexe que ça puisque c'est un document qui peut être important, qui doit présenter tous les objectifs, les méthodes spécifiques de l'association et tous les changements par rapport à l'exercice précédent. C'est-à-dire une annexe peut être très complète si je trouve qu'il y a des changements, et prévoir également un commissaire aux comptes à partir de certains types de recettes. Alors, il y a des recettes comme par exemple les dons pour lesquels on délivre des reçus fiscaux. Ça, c'est le même montant qu'avant, 153 000 euros. Mais si on reçoit par exemple de l'argent de l'étranger, ça permet déjà de tirer l'oreille, eh bien, c'est 50 000 euros. Or, les musulmans recevaient de l'argent de l'étranger. Mais là encore, je ne vois pas pourquoi on leur reproche, puisque les relations entre les États arabes et la France étaient marquées par des conventions signées par les ministres. Donc, je veux dire, c'est inimaginable qu'on reproche à quelqu'un d'appliquer une convention que les ministres de la République ont signée. Je veux dire, il faut voir qu'on est par moments dans des situations incompréhensibles.
Et les protestants eux-mêmes reçoivent des fonds de certaines églises suisses, allemandes.
Exactement. Oui, ça c'est certain, de Hollande en particulier, des États-Unis, etc. Et d'ailleurs, comme nous avons donné comme consigne d'appliquer la loi, parce que c'est gênant, c'est contraignant, mais ça ne pose aucun problème, nous sommes très attachés à la transparence financière, ça a permis au ministère de l'Intérieur de me dire un jour qu'ils avaient découvert que nous recevions plus d'argent que les musulmans. Je leur ai dit, je pense qu'on a plus déclaré que les musulmans, mais je ne crois pas que nous recevions plus d'argent que les musulmans. Il y a une petite différence.
D'accord. Et alors, pour appliquer ces lois, qu'est-ce que ça entraîne finalement pour appliquer
ces lois ? Ça entraîne une comptabilité beaucoup plus importante que jusqu'à présent. Ça entraîne de déposer un dossier qu'on appelle dossier de cultualité, qui est à faire tous les 5 ans, qui récapitule, si j'ose dire, tout l'historique, tous les biens, toutes les actions de la Fondation. C'est un document qui va entre 50 et 100 pages.
Pour des associations culturelles avec des paroissiens lambda du fin fond des Cévennes ou du fin fond d'une petite ville, il faut trouver donc des véritables fonctionnaires, enfin des gens qui sont capables de manier une comptabilité.
Exactement, ça a été le problème qui a occupé beaucoup d'associations culturelles, toutes même le second trimestre de 2023, puisqu'il fallait déposer tous ces dossiers avant le 30 juin 23. Et non seulement ça leur a pris du temps, mais la plupart, ils ont fait un travail remarquable, ils sont arrivés, mais le problème est né là, de la réception de ces dossiers par les préfectures. Parce que les préfectures n'avaient reçu aucune circulaire en la matière, auraient dû assurer une formation que la plupart n'ont pas faite, et on s'est trouvé devant des associations qui avaient, après beaucoup d'efforts, envoyé un dossier qui leur paraissait complet, etc., et auquel on a reproché, là aussi, des choses qui ne tenaient pas la route. Pour vous donner un exemple, il faut, quand on déclare une association culturelle, déclarer la liste de 7 membres, sorte de personnes référentes en quelque sorte. Bon, ça, elle l'avait toute faite, c'était prévu. Mais il y a des préfectures qui ont dit, puisque vous nous donnez la liste de 7 membres, donnez-nous la liste des membres d'associations culturelles. Premièrement, ce n'était pas prévu, c'est écrit nulle part. Deuxièmement, c'est même interdit, puisque le règlement général de protection des données personnelles,
bien sûr,
dit bien qu'on ne peut pas donner à quiconque, même une préfecture, la liste des membres d'une association. Il n'y a que les magistrats qui peuvent le demander, mais le préfet n'est pas un magistrat. Bon, pour vous donner un exemple de demande qui n'ont non seulement qui n'ont aucun fondement, mais qui heurte le bon sens juridique et le bon sens tout court.
Là, il nous reste à peine 2-3 minutes. Est-ce qu'on peut juste dire qu'est-ce que vous souhaitez? Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir faire modifier la loi? Quel est l'avenir de ça en 2-3 minutes?
Ben alors, c'est justement la grande différence entre 1905 et nos jours. En 1905, le même problème s'est posé puisque l'Église catholique avait dit non. Bon. Eh bien, l'État a tout fait entre 1907 et 1909 pour améliorer ce qui pouvait l'être et pour faire en sorte que, après toutes ces améliorations successives, un accord soit passé en 1923 avec l'Église catholique. Nous espérions qu'il en sera un peu de même en 2021. Pour le moment, on est 3 ans après, en 2024, pour le moment, rien n'a été changé. C'est-à-dire qu'on continue à dialoguer avec nos correspondants du ministère de l'Intérieur, qui sont toujours aussi agréables et courtois, mais dans les textes, rien ne change. Les difficultés. Et notre grand problème, c'est de savoir si en 2028, mais c'est bientôt 2028, compte tenu des lenteurs par moment de la France, il va falloir recommencer toute la procédure des 5 ans. Ou est-ce que d'ici là, nous obtiendrons une simplification? Parce que, même pour donner un exemple, pourquoi tous les 5 ans? Les fédérations sportives, mais qui elles ont toutes des personnels professionnels, etc., ont 8 ans pour faire ce travail. Alors pourquoi c'est 8 ans pour les fédérations sportives, 5 ans pour les cultuelles? Une question de plus qui montre le caractère tout à fait particulier de ce dispositif. Donc nous espérons, nous, que avec l'expérience, le ministère de l'Intérieur proposera des aménagements pour simplifier le dispositif.
Nous allons souhaiter ça. Vous souhaitez bonne chance. Merci à Jean-Daniel Roch. Merci à nos auditeurs que nous retrouvons la semaine prochaine. N'oubliez pas de réagir à Un protestant peut en cacher un autre, @radiofmplus.org. Merci et à bientôt.
Thème et anathème. Une émission proposée par Yolande Gounelle.